Vous écoutez, on lit pour vous.
Parler de religion sans grimper dans les rideaux. Un texte de Philippe Mercure, paru le 4 novembre 2025 dans la presse. Peut-on parler de religion au Québec sans s'énerver? On en doute parfois en écoutant certains politiciens et commentateurs. Et pourtant, c'est possible. J'en ai eu la preuve récemment en allant faire un tour au forum « Foi et espace public » organisé à l'ancien Grand Séminaire de Montréal. Il y avait des évangéliques, des sikhs, des musulmans, des anglicans, des catholiques, des juifs. Des gens qui ne partagent ni les mêmes croyances, ni bien souvent les mêmes opinions politiques. Pensez aux juifs et aux musulmans qui, en pleine période de conflit à Gaza, ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde. J'ai d'ailleurs cru comprendre qu'il n'a pas été simple de les réunir. Mais ça s'est fait. Sur place, j'ai vu des gens de différentes confessions se côtoyer dans des ateliers et s'échanger leurs coordonnées en sirotant du café. Et si vous croyez qu'ils se complaisent dans la même vision religieuse de la vie, détrompez-vous. Ils avaient invité M. Laïcité lui-même, le professeur Guillaume Rousseau, co-signataire du fameux rapport Pelchat-Rousseau, recommandant notamment l'interdiction des signes religieux dans les CPE. Soulignons le courage et l'ouverture de Maître Rousseau de s'être prêté à cet exercice de dialogue. Ce n'est pas une invitation dans une fosse au lion, a précisé Mgr Bruce Myers, un évêque anglican, avant d'interviewer Maître Rousseau devant public. Bien sûr qu'il s'est produit un choc des idées entre Guillaume Rousseau et les religieux. C'était l'objectif de ce sommet organisé par l'Institut Cardus, un groupe de réflexion chrétien. Mais j'ai été témoin de débats respectueux et d'une volonté réelle de discuter et de mieux se comprendre. Dieu, que ça fait du bien, si je peux me permettre d'interpeller une divinité à laquelle je ne crois pas. Évidemment, ceux qui ont la foi se sentent bousculés par la vision de la laïcité du gouvernement Legault et n'hésitent pas à le dire. Des idées comme interdire le port des signes religieux aux éducatrices de garderie ou les prières en public les heurtent profondément. Angad Singh, vice-président pour le Québec au sein de l'Organisation mondiale SIC, a peut-être le mieux résumé le sentiment général. La séparation de la religion et de l'État, c'est correct, souligne-t-il. On est d'accord avec ça. Mais ça doit s'accompagner d'une liberté de religion. Et dans la vision de la laïcité qu'on voit actuellement, c'est comme si on essayait d'effacer complètement la religion de l'espace public. Quelqu'un qui prie dans un lieu public, plaide en substance les religieux, n'incarne pas l'État. Pas plus que des enfants qui fréquentent l'école primaire. Rappelons que le Parti québécois compte leur interdire le port de signes religieux. La laïcité est utilisée comme un masque, un prétexte pour faire reculer la religion, estime Saïb Kaur, vice-présidente aux communications de l'Association SIC de l'Université McGill. Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens, parle d'une vision dans laquelle la religion est vue comme un manteau qu'on peut enlever et remettre. Tu peux avoir des convictions fondamentales sur la nature de l'univers, sur ta relation avec la nature et avec toi-même. Mais parce qu'un élu à Québec n'est pas d'accord avec ça, tu vas devoir enlever cette conviction, la laisser à la porte pendant 8 ou 10 heures par jour et pouvoir te la réapproprier uniquement quand tu rentres chez toi, illustre-t-il. Ce n'est pas ça, une conviction profonde, continue M. Brown. Il n'y a pas de liberté si tu dis « cette liberté se limite aux quatre murs de ta maison ». Le leader musulman convient qu'il est légitime de discuter de la visibilité de la religion dans l'espace public et en particulier de l'islam. C'est une conversation qu'il est très important d'avoir et de façon ouverte, souligne M. Brown. Les gens doivent être capables d'exprimer leurs peurs et leurs angoisses sans se sentir jugés. Sinon, on ne sera jamais capable d'avoir une vraie conversation. Les questions que de nombreux Québécois se posent à propos de l'islam, il les connaît. Ça veut dire quoi? Avoir une plus grande visibilité des musulmans et de l'islam dans la société québécoise? Est-ce que ça veut dire une recrudescence de la religion dans l'État? Est-ce que ça veut dire un recul sur des droits durement acquis, spécialement l'égalité homme-femme? Et c'est qui, ces gens-là? Est-ce qu'ils partagent nos valeurs? Énumère-t-il sans s'offusquer. Il estime que la communauté musulmane doit prendre le temps de comprendre le vécu catholique au Québec pour saisir les réticences envers les manifestations religieuses. Et quand il survient des dérapages comme on a vu à Bedford, je pense qu'il est important pour le vivre ensemble que notre communauté dise très clairement « on n'est pas d'accord avec ça », me dit-il. En échange, il aimerait qu'on cesse d'associer musulmans et intégristes et qu'on lui donne la liberté d'exister en tant que croyant. Louis Bourque, président du Réseau évangélique du Québec, observe lui aussi un malaise grandissant envers la religion. « On a l'impression, dit-il, que les gens du domaine politique prennent des décisions envers des gens qu'ils ne connaissent pas. On subit les décisions sans même être consulté. » On associe souvent la religion à la pensée unique. J'ai trouvé intéressant d'entendre plusieurs de mes interlocuteurs estimer qu'actuellement, c'est la vision non religieuse qui tend à étouffer les autres façons de voir l'existence. C'est comme s'il y avait juste une manière de penser qui est acceptable, dit M. Bourque. Je suis assez vieux pour avoir connu l'Église catholique de la fin des années 1950, et il y avait des problèmes à ce moment-là, convient quant à lui Paul McKay, membre de l'Église catholique de Québec. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le balancier penche de l'autre côté. Il y a comme une volonté du gouvernement actuel de limiter l'expression de la foi dans l'espace public, et je vois un peu ça comme une forme d'autoritarisme. Nous sommes des centaines de milliers de Québécois pratiquants. Rappelle quant à lui Mgr Bruce Myers, évêque du diocèse anglican de Québec. On veut contribuer à la société et on est prêt à être en dialogue avec le gouvernement. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec les opinions rapportées ici, encore moins d'épouser les convictions religieuses de ceux qui les avancent. Mais il me semble que lorsqu'elles sont exprimées aussi calmement, on devrait au moins être capable de les entendre sans faire une crise d'urticaire. C'était « Parler de religion sans grimper dans les rideaux », un texte de Philippe Mercure, paru le 4 novembre 2025 dans la presse.
Le coroner pointe le fauteuil roulant électrique dans le décès de Francis Labbé, un texte de Léa Arnaud, paru le 5 novembre 2025 dans En Beauce. Saint-Odilon de Cranbourne. Le coroner, maître Monique Tremblay, a dévoilé son rapport concernant le décès de Francis Labbé, survenu le 19 avril dernier à son domicile sur le 4e rang à Saint-Odilon de Cranbourne. L'homme âgé de 41 ans avait des antécédents de paraparésie spastique dû à la sclérose en plaques depuis l'âge de 18 ans, de perte de dextérité des mains, de troubles de la parole, d'atrophie aux bras et aux jambes et d'obésité, a expliqué le coroner dans son document. Il vivait dans son fauteuil roulant, dont il ne pouvait pas sortir seul. Son domicile avait été adapté pour qu'il puisse s'y déplacer. Francis Labbé était accompagné dans son quotidien par du personnel du CLSC de Beauceville ainsi que par sa mère, qui habitait tout près. Selon ses proches, M. Labbé avait un bon moral. Il ne fumait pas, ne consommait pas de stupéfiants et n'était pas suicidaire, précise le rapport. Le jour de son décès, sa mère avait quitté sa résidence vers 14h30. Et Francis regardait la télévision dans son salon. À son retour, vers 15h45, elle a découvert l'incendie. La victime se trouvait dans son fauteuil roulant électrique, dans son salon, lorsque celui-ci a pris feu. Il semblerait que le problème soit survenu au niveau des batteries, même s'il est difficile d'en établir la cause précise. Bien que cette expertise n'ait pas permis d'établir avec précision le secteur d'origine de l'incendie du fauteuil roulant, l'examen de ce fauteuil a permis de relever que seul le système électrique pouvait avoir agi comme source de chaleur probable et ayant la capacité d'allumer l'incendie. D'après l'enquête et les analyses du fauteuil roulant, celui-ci avait été régulièrement entretenu par le CLSC de Beauceville qu'il avait fourni à M. Labbé en 2019. Cependant, aucune vérification n'avait été faite concernant le circuit électrique du fauteuil. En ce sens, le coroner a demandé à ce que son rapport soit remis aux responsables de la préparation et de la livraison des fauteuils roulants du CLSC de Beauceville, aux responsables de l'achat des fauteuils roulants à la Régie d'assurance maladie du Québec, au manufacturier du fauteuil roulant qu'avait Francis Labbé et à Santé Canada. Cela, dans l'objectif de sécuriser ce type de fauteuil roulant afin d'éviter un autre accident de ce genre. Francis Labbé est donc décédé d'asphyxie suite à l'inhalation de la fumée de l'incendie. C'était « Le coroner pointe le fauteuil roulant électrique dans le décès de Francis Labbé », un texte de Léa Arnault, paru le 5 novembre 2025 dans « En Beauce ».
L'héritage durable de l'activiste du sida Elizabeth Taylor. Un texte de Richard Burnett, paru le 27 octobre 2025 dans le magazine Fugue. La plus grande vedette de cinéma du 20e siècle, Elizabeth Taylor, a déjà déclaré « J'en voulais à ma célébrité, jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais m'en servir. » Et elle l'a fait, avec force et conviction, en menant une véritable guerre contre la pandémie du VIH et du sida. Cofondatrice de l'AMFAR, The Foundation for AIDS Research, et fondatrice du Elizabeth Taylor AIDS Foundation, l'actrice a bouleversé à jamais la perception publique de la maladie et contribué à l'avancement de l'égalité LGBTQ+. À une époque où peu osaient défendre les hommes gays, dans les années 1980, elle a mis sa notoriété au service d'une cause qui faisait peur, brisant le silence autour du VIH-SIDA et exigeant compassion, financement et recherche, alors que le monde détournait le regard. En mars 1984, Joan Rivers avait animé la toute première collecte de fonds pour le AIDS Project Los Angeles, APLA, amassant 45 000 $ au Studio One de Los Angeles. Mais c'est Elizabeth Taylor qui a organisé le premier grand gala contre le sida, le Commitment to Life Dinner, le 19 septembre 1985, qui a permis de récolter 1,3 million de $ pour les soins aux patients de l'APLA. Plus de 2 500 personnes y ont assisté, dont Shirley MacLaine, Sammy Davis Jr. et Carol Burnett. Dans sa biographie « Elizabeth Taylor, The Grit and Glamour of an Icon » 2022, Kate Anderson Brower écrit « Au début, c'était un combat solitaire. Des dirigeants de studio à qui Taylor avait pourtant rapporté des millions lui raccrochaient au nez. Pire encore, son ami et ancien amant Frank Sinatra a refusé de l'aider. Michael Jackson aussi hésitait. Beaucoup trouvaient des excuses pour ne pas s'impliquer. Certains conseillers lui ont même dit que s'associer au sida pourrait détruire sa carrière. 2 mois avant ce gala, son grand ami Rock Hudson avait annoncé publiquement, le 25 juillet 1985, qu'il était atteint du sida. Trop malade pour y assister, il avait tout de même acheté pour 10 000 $ de billets et envoyé un télégramme lu à voix haute ce soir-là. « Je ne suis pas heureux d'être malade. Je ne suis pas heureux d'avoir le sida. Mais si cela peut aider d'autres personnes, je peux au moins me dire que mon malheur aura eu une utilité. Rock Hudson est décédé 2 semaines plus tard, le 2 octobre 1985. Sa mort a galvanisé Elizabeth Taylor. En 1986, elle a témoigné devant le Congrès américain pour réclamer davantage de financement et de recherche sur le VIH-SIDA. L'année suivante, elle a convaincu le président Ronald Reagan de prononcer enfin un discours sur le sujet et de prononcer le mot « SIDA ». Cette même année, lors d'un discours resté célèbre au National Press Club à Washington, elle a déclaré « J'étais tellement frustré et en colère face au silence, à ce grand silence assourdissant autour du SIDA. Personne ne voulait en parler ni s'impliquer. Personne ne voulait donner. Alors je me suis dit, « Bitch, fais quelque chose toi-même. Au lieu de te fâcher, agis. » En 1991, elle a fondé The Elizabeth Taylor AIDS Foundation, destinée à financer directement les soins aux personnes vivant avec le VIH. À l'approche de la Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre, j'ai rencontré Tim Mendelsohn, son ancien assistant personnel de 1990 jusqu'à son décès en 2011. Mendelsohn est aujourd'hui co-fiduciaire de sa succession et administrateur de la Fondation Elizabeth Taylor contre le SIDA. Avant de travailler avec Elizabeth Taylor, vous avez commencé en 1984 chez le designer Nolan Miller. Comment cette expérience a-t-elle marqué vos débuts? J'ai grandi à Los Angeles et fréquenté une école privée avec des enfants de célébrités, la fille de Paul Newman, les enfants de Michael Landon. J'étais ami avec Melissa Rivers et un jour, sa mère Joan et son père sont venus nous parler à la cuisine. Joan m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? » J'ai répondu « Peut-être quelque chose dans la mode. » Elle m'a alors dit « J'ai un lunch avec Nolan Miller demain. » « Je vais voir s'il a un emploi pour toi. » Je suis devenu le shopper de Nolan Miller. Mon travail consistait à trouver les tissus pour ses créations. J'avais 19 ans. C'était l'époque dorée de Dynasty. Nolan dessinait les tenues de Joan Collins, Linda Evans et Diana Carroll. C'était un vrai cirque. Joan Collins était une diva, Linda Evans un ange. Et moi, j'étais juste un gamin au milieu de tout ça. Quand Rock Hudson a tourné dans Dynasty, puis annoncé qu'il avait le sida, c'était terrifiant. Je n'ai fait mon coming out que 3 ans plus tard. Vous avez ensuite commencé à travailler pour Elizabeth Taylor en 1990. Elle vous a soutenu dans votre identité gay, tout comme elle soutenait discrètement des vedettes hollywoodiennes encore dans le placard. Dès que j'ai intégré l'univers d'Elizabeth, j'ai compris que les hommes gays en faisaient naturellement partie. Elle avait été proche de Rock Hudson, James Dean, Roddy McDowall et Montgomery Clift. C'est même elle qui a présenté Monty à Roddy. Ils sont sortis ensemble 6 mois. Ce n'est pas qu'elle m'ait pris à part pour me dire « Tim, tu devrais sortir du placard ». Ce n'était même pas une question. Elle aimait et célébrait les hommes gays, sans jugement et sans commérage. C'était tout simplement son monde. Vous l'avez accompagnée au mythique bar gay The Abbey à West Hollywood, où elle est devenue une habituée. Je me souviens très bien de la première fois. Elle était d'humeur joyeuse, apprêtée, maquillée, prête à sortir. Elle avait toujours hésité à aller dans un bar gay, de peur que ce soit perçu comme un coup publicitaire. Mais ce jour-là, un jeudi après-midi vers 3 heures, je savais que l'abbé serait tranquille. On s'est assis dans une banquette, on a commandé des entrées et des cocktails. 3 hommes, assis au bar, l'avaient reconnue. Un à un, ils sont venus la remercier. L'un d'eux, à genoux, les larmes aux yeux, lui a dit qu'il ne serait pas en vie sans elle. C'est à ce moment-là que j'ai compris, pour de vrai, pourquoi Elizabeth s'était tant investie dans cette lutte. Elizabeth Taylor et Richard Burton seront toujours liés à Montréal, où ils se sont mariés le 15 mars 1964 au Ritz-Carlton. Elizabeth ne s'attardait pas trop au passé, mais Richard a été, avec Mike Todd, l'un des deux grands amours de sa vie. Elle savait qu'il se serait probablement marié une troisième fois. En plus de son militantisme, on sait qu'elle visitait anonymement des hospices et accueillait chez elle des amis malades. Comment la Fondation perpétue-t-elle cet engagement aujourd'hui? L'un de nos programmes majeurs s'appelle « HIV is not a crime », qui milite pour la modernisation des lois dans plus de 30 États américains où des personnes sont encore criminalisées à cause de leur statut sérologique. Elizabeth a aussi légué 25 % de ses redevances à la Fondation. Dans sa dernière entrevue vidéo, peu avant sa mort, elle a dit vouloir que sa famille soit heureuse et que les gens poursuivent ce qu'elle avait amorcé. La Fondation était au sommet de ses priorités. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour son activisme, pas seulement pour ses films. La pop star Taylor Swift lui rend hommage dans la chanson « Elizabeth Taylor » sur son nouvel album « The Life of a Showgirl ». Que pensez-vous de cet hommage et de l'héritage d'Elizabeth Taylor? C'est un hommage très juste. Au XXe siècle, aucune vedette n'était plus grande qu'Elizabeth. Et aujourd'hui, personne n'est plus populaire que Taylor Swift, qui nous rappelle à quel point Elizabeth mérite d'être célébrée. Bien sûr, je ne suis pas objectif, mais quand on pense aux icônes LGBTQ+, Judy Garland, Madonna, Cher, l'appui inconditionnel d'Elizabeth à la communauté, surtout au plus fort de la crise du sida, reste unique. Son histoire est celle d'une humanité exceptionnelle. C'est une femme qui, malgré les tragédies, a toujours choisi de continuer parce qu'elle croyait profondément à la vie et à la valeur de chaque vie. C'était l'héritage durable de l'activiste du sida Elizabeth Taylor, un texte de Richard Burnett paru le 27 octobre 2025 dans le magazine Fugue.
Kilomètres de vélo pour documenter les bienfaits de la nature. Un texte de Véronique Larocque, paru le 7 octobre 2025 dans la presse. Voyager, c'est comme rouler sur une route de montagne. Mais parmi les hauts et les bas, il restera toujours ces souvenirs indélébiles qu'on emporte avec soi toute sa vie. La presse raconte les aventures, petites ou grandes, de voyageurs qui n'ont pas froid aux yeux. Aujourd'hui, un passionné de plein air qui parcourt 30 000 kilomètres à vélo de l'Alaska à la Patagonie. Depuis des années, Pascal Picard caresse le projet un peu fou de traverser l'Amérique à vélo, de l'Alaska à la Patagonie. Ça faisait longtemps que ce rêve était en moi, mais je ne savais pas comment le réaliser. Puisque c'est quelque chose d'immense, ça me prenait une motivation qui va me pousser tout au long. Confie l'homme de 42 ans par visioconférence. Café à la main, il répond aux questions de la presse en direct d'une forêt verdoyante de Wheeler, en Oregon. Vous l'aurez compris, son périple est entamé. Parti en juin d'Anchorage, en Alaska, il a parcouru plus de 5000 km à vélo jusqu'à maintenant. Son aventure devrait durer environ 18 mois. C'est la réalisation d'un documentaire qui lui insuffle la précieuse motivation nécessaire pour mener à bien ce voyage sur deux roues. Avec mon projet, je veux découvrir comment la nature peut nous rapprocher entre les cultures, comment elle peut aussi nous rapprocher de nous-mêmes, explique-t-il. La nature, un pont entre les cultures? Celui qui travaille dans le domaine du plein air depuis une dizaine d'années a constaté à quel point, en général, les gens ont plus de facilité à entrer en contact avec les autres lorsqu'ils sont en nature. On n'a qu'à penser à ces bonjours échangés entre randonneurs en forêt. Je crois que, quand on est en ville, il y a tellement de stimulation partout, on est parfois dans notre tête, dans notre quotidien, dans nos soucis de la vie, dans nos responsabilités. Quand on se retrouve en nature, on est dans un milieu plus détendu. On est capable de se connecter plus facilement. Dans les dernières années, il a rencontré beaucoup de personnes immigrantes en faisant du covoiturage. Curieux, il leur demandait souvent comment se passait leur intégration au Québec. Le climat était un défi pour la majorité, mais ce n'était pas le seul. Nombreux lui ont dit que tisser des liens avec les Québécois était difficile. Pascal Picard est convaincu que la nature a le pouvoir de créer des ponts entre les cultures et ainsi faciliter l'adaptation des personnes immigrantes à leur nouvelle vie. À travers son périple et son documentaire, il souhaite donc explorer s'il y a des ingrédients universels dans la nature qui permettent aux gens de se connecter aux autres cultures. Rencontres et paysages. Pour ce faire, il mène des entrevues au fil de son parcours. Certaines de ces rencontres ont été planifiées avant le départ, comme ce rendez-vous avec des membres des Premières Nations de Champagne et des Chiiques au Yukon. D'autres sont le fruit de ce que certains appellent le destin. Pascal Picard se remémore notamment cette Yukonaise croisée à une intersection qui lui a demandé s'il cherchait un hôte Warm Showers, une communauté composée de gens qui offrent le gîte aux cyclistes. La vision du monde de cet environnementaliste a beaucoup résonné chez notre interlocuteur, si bien qu'il lui a proposé de participer au documentaire. Au-delà des rencontres, Pascal Picard a été marqué par les lieux sur sa route. A-t-il des coups de cœur ? Il prend un moment pour réfléchir. L'Alaska, ça a été une découverte. Je suis arrivé là en juin. Les montagnes étaient enneigées. Les paysages, c'est vraiment beau, répond-il le sourire aux lèvres. Pour des raisons similaires, il a également été marqué par le Yukon et sa faune. J'ai croisé des grizzlies et des ours noirs, lance-t-il en avouant avoir ressenti à ce moment-là un mélange de fascination et de peur. Son passage dans les Rocheuses canadiennes entre Jasper et Lac Louise l'a aussi impressionné. Préparation. Pascal Picard passera encore de nombreux mois à vélo. Comment s'est-il préparé à cette grande aventure ? Ma préparation physique, c'était assez minime, parce que je suis habitué à faire beaucoup d'activités physiques, admet le cycliste. Puisqu'il travaille dans le milieu du plein air, il possédait déjà une bonne partie du matériel nécessaire pour camper tout au long de son trajet. Il a également lancé une campagne de sociofinancement pour réaliser cette aventure. L'élément le plus long de sa préparation a toutefois été de monter son projet documentaire. En plus de faire des recherches et de préparer des entrevues, il a contacté deux chercheurs. Car Pascal Picard aimerait aussi faire naître de cette aventure un mémoire de maîtrise. Un tel voyage à vélo est transformateur, constate le cycliste. Quel a été son plus grand apprentissage pour le moment ? Lors de ma première rencontre avec une communauté des Premières Nations, j'ai réalisé que, même si je suis animé de bonnes intentions, mes gestes de connexion et de bienveillance pouvaient ne pas être perçus comme tels. J'ai compris que je devais affiner ma sensibilité pour mieux lire les différents signaux culturels, répond-il. Il émet d'ailleurs l'hypothèse que la sensibilité est l'une des clés universelles du rapprochement interculturel. C'était 30 000 km de vélo pour documenter les bienfaits de la nature, un texte de Véronique Larocque paru le 7 octobre 2025 dans la presse.